Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou de Mambi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au centre du forum de la presse de ce vendredi, quatre sujets. Le premier, c'est le démarrage hier des patrouilles mixtes à Gao, un démarrage qui devient effectif après beaucoup de tergiversations et un événement sanglant. Le second, c'est le report de la mise en place des autorités intérimaires. Le troisième, c'est la publication de cette semaine donc du dernier rapport d'Amnesty International pour les cas du Mali. On ne saurait dire que le document est vraiment flatteur puisqu'il y a même question de faire du Mali une priorité compte tenu de l'aggravation de la situation relative aux droits humains. Alors, le dernier sujet, c'est la situation sécuritaire, une situation qui reste toujours préoccupante. En atteste l'attaque subie par la force Barkhane dans la région de Kidal et qui s'est soldée par la mort de quatre membres d'un groupe armé. De tout cela, nous allons parler avec quatre journalistes, à savoir Paul Ben, il est journaliste indépendant, Ami Baba Cissé, il est de RFM et du journal Figaro. Nous avons également Amidou Eladji Touré, lui il est de malimedia.com et Idrissa Keita qui est donc de Raida Info. Ce forum vous est présenté par Seydou Foma.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue donc à toutes et à tous. Le premier sujet que nous abordons dans le débat de ce soir, c'est le démarrage des patrouilles mixtes à Gao, un démarrage qui n'a point du tout été facile avec tout ce qui a précédé. Alors, le coordinateur du MOCO peut-il enfin pousser un ouf de soulagement? Je pose la question à vous, ami VCC.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs de votre réseau. C'est une question difficile à répondre. On sait que le Mali a connu un coup dur avec cette histoire de MOC. Un peu plus de mois, si on veut aussi rapidement reprendre, je pense que ça me perturbe un peu parce que ce n'est pas aussi sûr de faire ce qu'on veut faire.
Mais c'est parti désormais, puisque depuis hier, on dit que c'est effectif.
C'est ce que j'ai dit, mais jusqu'où peuvent-ils aller aussi rapidement, après n'avoir pas cherché à comprendre toutes les circonstances, parce qu'on a ouvert des enquêtes, on ne sait même pas ce qui se serait passé le 18 janvier. Donc si on se met encore dans une dynamique de vouloir coûte que coûte faire de ce MOC une réussite, je pense que ça me fait poser des questions.
Alors, Idrissa Keita, vous êtes de Raida Info. Je le rappelle, est-ce que ce démarrage du MOC à Gao, ça vous donne espoir ou ça vous rend un peu plus optimiste?
Bon, je pense que les autorités ont sûrement voulu donner un signal parce que du MOC va aussi dépendre un peu le futur des forces armées. Une loi de programmation militaire est là. On peut dire que le MOC est quand même un indice parce que c'est un mixage de l'armée régulière et de certains mouvements armés. Donc, je pense qu'après un mois, suite au drame de Gao, les autorités ont quand même voulu donner un signal pour dire que la refonte de l'armée et l'éventualité de voir forces armées, FAMA et éléments armés ensemble, que c'est une possibilité.
Paul Ben, votre lecture de cet événement?
Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs, puisque ça paraît à la télé, je crois, demain, de Studio Tamani.
Donc, moi, je pressens que vous serez un peu plus optimiste aujourd'hui.
Ce n'est pas que je suis optimiste, mais je dis qu'il faut continuer. Il faut continuer. C'est pas parce que le MOC a subi une attaque sanglante qu'il faut s'arrêter. Sinon, on donnerait raison à ces terroristes, à ces forces du mal. Je l'ai dit toujours, moi qui sillonne un peu ces régions dangereuses, soit par véhicule ou par air, j'y réside aussi. Je dis qu'il faut pas se laisser faire. Il faut pas donner l'impression à ces gens-là que bon, ils ont gagné, il faut s'arrêter. Non, le MOC, ils ne peuvent pas tuer toutes les personnes qui veulent intégrer les forces armées et de sécurité du Mali. Donc il faut continuer. Et je crois que la reprise du MOC est une très bonne chose. Maintenant, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut être vigilant. Le plus dur reste à faire. Je suis revenu du Nord il n'y a pas très longtemps et les terroristes ont décidé de combattre le MOC. Ils ont mis d'ailleurs même en place une stratégie et dans chaque région ils ont fait appel à leurs gens. Il y a aujourd'hui à peu près une soixantaine de véhicules qui sont rassemblés par ces gens et qui vont combattre le MOC partout où le MOC passera. Donc il faut être vigilant, il faut ouvrir l'œil. Il faut pas le laisser aller.
Alors, cette menace, je crois que les autorités sont au courant.
Je crois, moi aussi. Je crois, hein. J'ose croire. Faut pas qu'on fasse ce qu'on a l'habitude de voir à chaque fois. Il y a des alertes. On dit, ouais, il n'y a pas de problème. On a l'information.
Alors, vous avez parlé d'une soixantaine de véhicules. Alors,
oui, vos sources, 15 par région. Oui.
Vos sources, est-ce que vous pouvez nous citer, non?
Je vous dis que je suis journaliste d'investigation. J'ai la chance d'aller au nord, d'y résider, et j'ai la chance d'avoir des relations avec beaucoup de personnes de tous bords, qu'elles soient républicaines ou pas, et j'ai des informations. Ça s'est passé tout juste avant la dernière attaque de Menaka où on a perdu 4 militaires. Hein. Ça se préparait déjà en son temps. Et en tout cas, le signal est donné. Il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on soit vigilant.
Amilou Elage Touré, vous êtes de malimedia.com. Je rappelle aux auditeurs. Pensez-vous que c'est cette fois-ci bien parti pour le MOC à Gao?
Merci, M. Fomba, et merci à chers confrères. Tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour ce même MOC. Et ensuite, je dirais que je rejoins Ben quelque part. C'est que c'est parti pour de bon. Il fallait faire un pas en avant et je pense que le démarrage effectif du mécanisme opérationnel est une bonne chose. Cependant, j'ai quelques réserves et je ne sais pas si je pourrais évoquer ces réserves plus tard ou c'est le moment de le faire.
Allez-y.
Puisque j'aurais bien souhaité, j'étais à Gao suite à l'attaque. J'y suis resté pendant une très bonne semaine. J'ai vu des personnes qui ont été vraiment touchés, qui ont subi un traumatisme, et ces personnes ont besoin quand même de soutien psychologique. Et s'il faut aujourd'hui recantonner ces personnes, aller vers un mécanisme opérationnel, je pense que ce serait vraiment mal vu.
Donc c'est un appel que vous lancez?
C'est un appel que je lance. Deuxièmement, j'aurais quand même souhaité que ce soit sous la coprésidence des forces armées maliennes et de la MINUSMA. Cependant, tel n'a pas été le cas et nous l'avons tous constaté ou remarqué que c'était sous la présidence de la MINUSMA. Et je déplore autrement que, à preuve du contraire, c'est les soldats de la MINUSMA qui continuent à garder le camp réhabilité du mécanisme opérationnel.
Nous allons passer au second sujet. Le second sujet de ce débat, c'est le report de l'installation des autorités intérimaires. Alors, cette énième tentative n'a malheureusement pas été la bonne. Voyez-vous où la situation s'est débloquée les jours à venir à MBC?
Moi, je pense que cette histoire, c'est depuis la source, c'est depuis la base, parce que nous savons dans quelles conditions.
Mais pourquoi vous l'appelez histoire?
Cette histoire d'autorité intérimaire, c'est d'abord par rapport aux accords d'Alger, à l'accord d'Alger, et tout le monde sait comment est-ce que ça a été élaboré. Il est évident que de l'Assemblée jusqu'à la Cour constitutionnelle, en passant par le peuple, on a vu comment est-ce que ces autorités intérimaires ont été accueillies. D'abord, c'est un problème depuis. Et le gouvernement savait que ça ne peut pas aller. Parce qu'aujourd'hui, le Nord est en train de s'embraser parce que la patience que les populations du Nord, des régions du Nord avaient, elles ne l'ont plus. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire parachuter des décisions et des lois sur des populations qui ont tout accepté. Les autorités intérimaires, lorsqu'on en a parlé, on dit qu'elles vont être instaurées et installées là où l'État ne fonctionne pas, là où les collectivités ne fonctionnent pas. Et lorsqu'on nous parle de Tombouctou, on nous parle de Gao, là, il y a eu récemment des élections, il y a quand même des autorités compétentes qui sont là-bas. Et si vous voulez coûte que coûte leur imposer ça, moi je pense que l'État a bien compris et malheureusement il s'est rétracté. C'est encore grave lorsque vous voulez montrer votre autorité et que des individus isolé, parfois vous montre que tel ne peut pas se faire. Donc je pense que les autorités intermédiaires, c'est un problème qu'il faut revoir. Comme l'a dit le ministre Ousmane, si c'est une camisole de force et puis on ne peut pas faire porter ça comme ça facilement aux gens.
Alors Idrissa Keïta, y a-t-il des chances que les autorités intermédiaires soient installées assez rapidement dans les trois régions du Nord?
Comme je le dis, pour moi les autorités intérimaires c'est à la source aussi. C'est depuis l'accord de paix. L'accord de paix même, il est caduque. Voilà plus d'une année que le Mali a signé un accord. Mais les défis sécuritaires et les défis du jour sont tels que le Mali est même dépassé. De deux, ces autorités intérimaires, il y a quand même eu mort d'homme. Il y a eu un drame à Gao. Il y a eu plusieurs victimes. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale. Les députés se sont donnés en spectacle. C'est pour dire que chaque fois que ce mot même est paru dans un groupe, il y a toujours eu divergence et de fortes divergences de vues. Et n'oublions pas que déjà la jeunesse de Gao a mis en garde. Si jamais les autorités intérimaires entendent quoi que ce soit, ils vont en découdre. Autrement, on vient quand même de faire des élections. Parce qu'à ce que je sais, ces autorités-là ont une position communale dans le système de gestion locale. Or, on vient de faire des élections. Dans certaines zones, au-delà même de tout le territoire national. Donc c'est quand même un langage en porte-à-faux où on a quand même eu des autorités communales et qu'on va y mettre des autorités intérimaires. Et encore, Kidal, où on pensait que c'était acquis, certaines autorités, entre guillemets, ont montré que finalement, ce sont elles qui font la loi. Ce sont elles qui décident de qui administrera la zone ou non. Donc, en conclusion, l'autorité intérimaire n'est pas une solution. Mieux vaut proposer une autre formule.
Paul Ben, entendre les uns et les autres, on a l'impression quand même qu'il y a assez de confusion autour de ces autorités intérimaires. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi qui suis sur le terrain, j'ai une autre lecture, hein. J'ai une autre façon de voir les choses. Parce que quand un jeune se présente à la mairie de Ménaka, par exemple, et qu'il ne peut pas faire certifier son acte de naissance ou son document administratif, moi je crois qu'on a besoin des autorités.
Mais c'est une mairie fonctionnelle.
Elle n'est pas fonctionnelle, puisqu'on n'a pas eu d'élection communale à Ménaka. Donc la mairie n'est pas fonctionnelle.
Donc le maire, ça veut dire que les localités qui sont dans cette situation ont certainement besoin de l'eau.
Bien sûr, bien sûr. Alors. Je ne les donne pas entièrement tort. Ma lecture des choses ne leur donne pas entièrement tort, mais je crois que il faut vraiment qu'on s'assied, qu'on essaye de voir, qu'on essaye de faire la part des choses, qu'on ne se jette pas à l'eau parce que on a l'impression que le Mali est en train de se noyer et que la solution la plus facile, c'est de mettre partout
les autorités intérimaires. Est-ce à dire qu'il y a des localités où ces autorités intérimaires sont vraiment nécessaires et il y en a d'autres où il faut éviter les...
Mais bien sûr. Par exemple, dans la ville de Gao, il y a eu les élections communales. Il y a le maire qui est là, que je connais très bien. Et à Tombouctou, il y a le maire que je connais très bien, qui a été élu. Mais pourquoi aller dire encore que il y aura des autorités intérimaires qui vont agir sur le pouvoir communal du maire central, par exemple. Mais moi, je dis, par exemple, à Ménaka, dans toute la région de Ménaka, les quatre cercles, il n'y a pas eu d'élection. Andraboukane, Chinanan, Inekar, Anouzegren et consorts, il n'y a pas eu d'élection. Donc il faut mettre en place vraiment ces autorités communales pour que les collectivités puissent fonctionner. Ça, c'est normal. Mais là où vraiment il y a eu des élections, qu'on fasse la part des choses. On ne peut pas mettre les autorités intérimaires sur toute l'étendue de la région de Gao, par exemple.
Alors, par quoi expliquez-vous le choix quand même de cette démarche qui est quand même beaucoup décriée par beaucoup de gens?
Ça, c'est les politiciens qui peuvent vous, les politiques, les plus hautes autorités du Mali qui peuvent vous donner la réponse à cette question. Mais moi, je crois, à mon humble avis, en tant que citoyen, je crois que vraiment il faut faire la part des choses. Sinon, on va rentrer dans des débats qui ne valent pas le coup. On va traîner en longueur. C'est le mardi que les autorités intérimaires devaient être mises en place à Ménaka. Avant, c'était Kidal, mais ça n'a pas eu lieu. Et paf, un beau matin, on nous fait parachuter, on nous fait un jeu de chaises musicales où on amène le gouverneur de Kidal à Tombouctou. On met M. Ishrach de la plateforme à Kidal. Ça là, c'est tout ça, c'est un peu au tir d'aile, quoi. Il faut vraiment être vraiment pragmatique et voir les choses, excusez-moi, dans le long terme. Il ne faut pas gérer les choses au jour le jour, pour quelques jours. Non, il faut voir les choses à long terme. On est dans un problème. La crise, elle a duré 4 ans. On y est jusqu'à présent. Pour en sortir, il faut des solutions durables. Et moi, je crois que pour l'instant, je vois que les gens, les plus autorités, les politiques, ils tâtonnent pour l'instant. Il faut qu'on s'assied, qu'on voit les choses après la signature de l'accord et puis qu'on prenne des décisions durables.
La suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous sommes donc au second sujet de ce débat, c'est l'installation des autorités intérimaires qui n'a pas eu lieu finalement dans les trois régions du Nord. Nous allons à présent écouter ce que pense de cela Amidou Elijah Touré qui est de malimedia.com. Monsieur Touré.
Oui, Monsieur Fomba, moi je pense que il faut avancer et nous avons signé un accord qui est le meilleur de tous les accords qui ont été signés jusque-là. Et je pense que l'installation des autorités intérimaires est une précepte de cet accord. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a eu vice de forme. Les gens font une très mauvaise interprétation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.
Qui sont ces gens qui font cette mauvaise interprétation?
De tout le monde, presque tout le monde, même les autorités.
Les acteurs
et les bénéficiaires, s'il y en a, presque tout le monde fait, vraiment, les gens essaient d'interpréter cet accord à convenance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons dépasser cela. Ces autorités intérimaires, comme l'a dit Ben, il fallait les installer dans les endroits où les mairies ne fonctionnent pas. Et s'il faut les installer, moi je pense plutôt que l'État doit faire prévaloir son autorité. L'État doit installer des autoritaires, des personnes susceptibles d'avoir une autorité sur ces localités et des personnes susceptibles quand même de corriger le tir ou bien d'organiser ces élections pour lesquelles ils seront, je sais pas, élus ou installés. Mais je dirais qu'il y a eu vice de forme. Un, les populations ne savent pas que c'est que ces autorités intérimaires et quelle sera leur mission. Ça, je peux vous le dire. Les populations du Nord ne le savent pas. Et peut-être même certains intellectuels à Bamako ne savent pas à quoi servent ces autorités intérimaires. Donc, moi, je dis qu'il faut continuer à communiquer autour de l'accord et du contenu.
Oui, mais Monsieur Touré, ce qu'on ne comprend pas, je crois quand même, peut-être le mot tapage est assez fort, mais il y a assez de bruit quand même autour de ces autorités intérimaires.
De bruit ou de communication?
On en a beaucoup parlé.
Moi, j'ai dit de communiquer. Et c'est parce que...
Informer les gens.
Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que nos autorités communiquent très mal. Nos autorités ne communiquent presque pas. Il s'agit vraiment de faire un down to top, non, to faire un top down. Quand vous allez vers les gens avec vos propositions, les gens vont se rebuffer, les gens vont les refuser. Si je vois même l'organisation du je sais pas quoi d'entente nationale,
la conférence
d'entente nationale, je vois qu'on va faire parachuter des choses dans les régions sur des personnes qui ne connaissent rien de ce que ça veut dire ni de ce que ça va contenir. On va parler le gros français alors que le pauvre peuple qui est concerné ou le peuple soiré qui est concerné ou le peuple tamaché qui est concerné ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. On va payer des gens pour les amener à Bamako, les entasser dans une grande salle du CICB ou ailleurs, on les paye des frais d'hôtel, on les donne à manger et puis c'est fini. Et on pense qu'on a communiqué.
Moi, je le rejoins en disant que, par exemple, le report de la mise en place des autorités intérimaires.
Non.
Mais on a un porte-parole du gouvernement qui est là, on a un ministre de la Réconciliation nationale qui est là, on a un ministre de l'administration territoriale et des collectivités chargé de la décentralisation et de la réforme de l'État qui sont là. Mais venez, prenez 5 minutes de votre temps, venez sur les antennes de l'ERTM qui est une chaîne nationale et qui est un porte-parole du gouvernement, venez nous expliquer pourquoi il y a eu report, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, il y a cela. Parlez-nous, expliquez aux gens, dites aux gens ce qu'il y a. C'est mieux.
Idrissa Keita qui veut réagir.
Oui, je pense que M. Touré ne doit pas s'en tirer à si bon compte. Les autorités intérimaires, déjà, ça fait débat. Mais les autorités intérimaires, ce n'est qu'un résultat d'une chose, l'accord de paix. L'accord de paix a été signé il y a bientôt 2 ans. Et on ne va pas se voiler la face, il est caduque.
Comment, qu'est-ce que vous dites caduque? Moi, je ne comprends pas.
L'accord est dépassé.
On entend de plus en plus ces termes, l'accord caduque. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce qu'il faut l'actualiser ou quoi?
Il faut l'actualiser. Et je pense que déjà cet accord... C'est vrai qu'il y a eu toutes les sensibilités, les journalistes, les politiques qui étaient là-bas. Mais ne nous voilons pas aussi la face. Certains y étaient lors de la signature des accords, mais ils n'étaient pas habilités à être au niveau de certaines corporations. Je ne me mets pas dans ce débat. Ça, c'est un fait. L'accord en lui-même, déjà, il n'a pas fait l'unanimité au sein de la population. À ce jour, on peut dire que les populations, dans leur grand ensemble, ne se sont pas encore appropriées l'accord de paix. Or, les autorités intérimaires viennent de cet accord. Maintenant, l'accord, c'est vrai, il y a une mise en place, il y a un procédé pour l'appliquer. On parle de la conférence d'entente nationale. On aurait dû commencer par ça depuis. Parce que le Mali est à la croisée des chemins. Il y a une crise politico-sécuritaire et même culturelle.
Mais justement, moi, j'allais dire que vous dites que l'accord est caduque. La crise, elle est caduque ou bien elle continue?
Non, je ne parle pas de la crise.
L'accord est venu suite à la crise.
L'accord est venu suite à la crise.
La crise, elle existe toujours ou bien elle est caduque?
La crise, elle existe toujours parce que justement, dans l'application de l'accord, il y a eu des ratés. La conférence nationale n'était pas prévue.
Tant que la crise est là, tant que la crise persiste, je crois que nous devons nous baser sur... L'accord, c'est des briques. C'est des briques qui nous permettent de construire une maison. On a tellement discuté autour des briques. On ne peut pas construire une maison en discutant autour des briques. Il faut les prendre, les mettre une à une, l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre pour construire une maison. Or, depuis ce temps, on est en train de discuter autour des briques. Il est temps qu'on prenne ces briques, qu'on les mette. Même si il y a une brique qui tombe, on reprend une autre, on les dépose. Là, on va construire la maison. Sinon, tant qu'on reste là...
Le problème, c'est ce que j'ai plutôt dit, c'est que les gens sont une très mauvaise interprétation, font une très mauvaise interprétation de l'accord. En ce sens que mon confrère Drissa pense que l'accord est caduque.
C'est un fait.
D'autres pensent que l'accord est d'actualité. Et moi, ce que je pense de tout ça, c'est que l'État doit communiquer sur les accords, encore sur les accords, et communiquer encore. Parce que comme Drissa l'a dit, les populations continuent encore à se demander qu'est-ce que cet accord-là. Donc, communiquer sur cet accord. Et par ailleurs, il a dit que l'accord est caduque. Mais c'est en construisant, on se rend compte des erreurs, on se reprend. Je pense que la conférence d'entente nationale, qui accuse des vices de forme, doit aujourd'hui rectifier le tir et peut-être recadrer, recentrer tout ce qui devait être fait dans les normes.
Non, mais moi, je pense que il faut qu'on soit très clair. L'accord ne fait pas unanimité au sein de la population. La majeure partie des Maliens ne sont pas pour cet accord.
Est-ce que l'accord n'a pas été bien expliqué?
Ce que Touré a dit, c'est vrai, il faut expliquer l'accord, mais ce n'est pas après l'avoir signé. Il fallait d'abord commencer par une phase. Les groupes rebelles, quand ils ont eu les modalités, les aspects de l'accord, ils ont été consultés, les quelques individus qu'ils avaient à Kidal, avant de signer. Tout le monde a vu ce qu'ils ont fait comme grimace avant de venir signer.
C'était juste une stratégie pour retarder.
C'est les groupes armés qui ont fait qu'on est encore en retard dans cette histoire. Qui est venu consulter la population malienne?
Et pourtant, ces groupes armés sont en train de retorquer que l'État n'est pas en train de jouer sa partition.
Moi, je pense...
À la dernière tenue de
Non, moi, je pense qu'ils ont retorqué ça. Moi, je pense que l'État est en train de jouer son rôle. D'ailleurs, l'État est en train même de se coucher. Les groupes armés sont en train de lui marcher des îles. L'État fait tout pour que l'accord marche dans son application. Mais les comités de suivi, combien de fois ça s'est arrêté? Combien de fois les groupes armés ont quitté? Je pense que les religieux l'ont dit ici. Tout le monde l'a dit. Il faut faire une application intelligente de cet accord. Il y a des ratés, il y a des failles énormes. Et voici que ça nous rattrape aujourd'hui. On ne peut pas aller avec cet accord, que vous le vouliez ou pas. Il y a quand même des mécanismes qui sont complètement dépassés. L'accord devait être mis en œuvre à partir de deux mois après, trois mois
après. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'accord n'est ni la Bible ni le Coran.
C'est un document qu'on peut améliorer à tout moment. Ça étonne que l'Assemblée nationale par laquelle... Ça m'étonne que l'Assemblée nationale par laquelle l'accord n'est même pas passé se permette de voter des lois par rapport à cet accord. Je pense que tout le monde est d'accord que cet accord quand même viole la Constitution et on est obligé de partir à la révision constitutionnelle bientôt.
Nous allons aborder un troisième sujet. Ce sujet, c'est donc la publication du rapport 2017 d'Amnesty International. Il est question de la situation relative donc aux droits humains à travers le monde, évidemment que notre pays est cité. Mais je dois le dire, vous l'avez constaté vous-même, c'est un document qui n'est pas du tout flatteur pour notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu de ce rapport d'Amnesty International, M. Touré?
Oui, d'accord avec le contenu. Je suis d'accord surtout le passage qui stipule la violation des droits humains et la liberté de la presse. Et aujourd'hui, nul n'ignore ce qui se passe à Bamako et dans les régions. On est en train de museler la presse, on est en train de bastonner des journalistes, on est en train d'empêcher les gens d'organiser des meetings, d'organiser des marches, alors que ce sont des droits humains. Et si l'État vraiment veut que les citoyens continuent à le respecter, je pense qu'il faut leur attribuer leurs droits, je pense qu'il faut leur concéder ce qui leur revient.
Alors, pour Ben Amnesty, il trouve la situation si grave, elle estime que la situation s'aggrave justement de jour en jour, au point qu'elle dit qu'il faut faire du Mali une priorité. Alors, c'est vraiment logique selon vous?
Du Mali une priorité par rapport à quoi?
Par rapport aux violations des droits humains.
Non, je crois.
On parle d'exactions.
Je ne sais pas si le Mali est pire que le Burundi, mais bon, il faut s'inquiéter.
Oui, mais les exactions sont quand même citées.
Ce rapport concerne quand même 159 pays dans notre pays. Donc le Burundi fait partie.
Les forces internationales et le groupe armé.
Oui. Non, moi, la situation dans laquelle le Mali vit depuis 5 ans maintenant est préoccupante et certaines personnes en profitent pour mener des exactions. Ce n'est pas seulement les groupes armés, mais aussi des porteurs d'uniformes, des hommes en tenue. Moi j'ai vu le cas à Tombouctou. Ça se passe à Kidal, ça se passe un peu partout. C'est préoccupant. Maintenant, qu'est-ce que Amnesty International amène comme solution à part dénoncer?
Ah ben, c'est déjà important de dénoncer.
Ça fait des années que des rapports de ce genre paraissent. Moi je crois que maintenant, il faut qu'Amnesty International, au-delà de sortir des rapports, trouve un moyen de pression, de mettre la pression sur les différents gouvernements, sur les différents pays où ils constatent cela, afin que ça ne peut pas cesser à 100%, mais afin que ça se réduise. C'est ça que moi je dis. C'est le point sur lequel je critique souvent ces organismes, la Human Rights Watch, Amnesty International. Je leur dis, vous dénoncez, c'est bien, c'est très bien de dénoncer, de publier, de faire paraître, de dire aux gens que bon, il y a telle chose qui se passe. Maintenant, après, c'est quoi? Chercher maintenant le moyen de mettre la pression sur ces gouvernements, sur les gouvernements, sur les pays, afin que cela cesse. Nous avons vécu tout à l'heure le conflit entre Bambara et Peul dans le Massina. C'est quoi? C'est le laxisme, c'est le laisser-aller, c'est un truc latent qui est là depuis des années. Si on avait mis la pression un peu sur les autorités afin qu'elles stoppent cela, elles peuvent le faire.
Justement, je pense que le confrère, il doit comprendre une chose. C'est vrai qu'elle dénonce. C'est aussi un outil, plus ou moins, pour les autorités et même pour la société civile, pour les populations. Se faire une idée de ce qui se passe. Mais est-ce que, en faisant des propositions, en se mettant dans ce jeu-là, certains ne vont pas crier au loup en parlant d'ingérence? Point d'interrogation. Le débat, il est là. Ensuite, c'est vrai, La situation n'est pas fameuse, mais simplement, en partie, je dis bien en partie.
Pourquoi ?
C'est à cause de la caducité de l'accord de paix. Je veux m'expliquer.
Il revient à sa caducité.
Je reviens. Je reviens.
Mon cher confrère, les exactions, ça se fait avant la crise.
Alors, oui, on va lui permettre de nous
l'accord.
Expliquer.
Vas-y, vas-y. Justement, vous savez, vas-y. Qu'on le veuille ou non, les violations des droits, parce que les droits humains ont atteint un certain niveau auquel on ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'il y a même des actes, des choses qu'on fait, ce sont des droits humains, mais on ne s'en rend pas compte. Mais au jour le jour, on découvre que les droits humains ont une autre ampleur. Maintenant, on peut quand même supposer que dans une zone où il y a de la une paix, où il y a un semblant de paix, il n'y aura pas d'exaction en tant que telle. Aussi, le Mali, comme je l'ai dit, il y a un péril sécuritaire. À telle enseigne que acte terroriste, bandits de grand chemin, barbarie, on n'arrive même plus à faire la part des choses. Vous avez parlé de Mopti Kemasina. La situation est telle que la lecture qu'on a, c'est une lecture un peu socio-ethnique. On se dit que c'est deux ethnies, Bambara et Peul, qui en sont aux prises. Alors que la lecture n'est pas tout à fait que ça.
Studio Otamani, vous suivez le forum de la presse. On se retrouve dans un instant.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous parlons des événements qui ont donc marqué la semaine. Nous sommes en train de parler du dernier rapport d'Amnesty International, un rapport qui ne mentionne aucun progrès, qui plutôt souligne que la situation au Mali est très préoccupante pour ce qui concerne les droits humains. Alors, je crois que nous allons donc revenir à vous, Idrissa Keïta. Vous étiez justement en train d'évoquer le conflit entre Peul et Bambara qui a fait beaucoup de morts.
Je disais qu'il y a eu des exactions. Ces exactions ont fait que on a une lecture socio-ethnique de la chose, alors que ce n'est pas le cas. Il y a une confrérie aussi qui est là. Il y a les douzeaux, des éléments incontrôlés armés qui sévissent. À travers le territoire malien, on le sait, l'État, il n'est pas partout. Et dans ces zones-là, dans ce vide-là, il y a des éléments au-delà même des douzeaux. Il a parlé de porteurs d'uniformes aussi qui ne sont pas sérieux. Et d'autres qui ont les armes, qui font ce qu'ils veulent. Donc ce sont les pauvres populations qui, prennent le pot cassé. Je pense même que quelque part, une réponse de l'État, c'est par exemple la construction d'une prison hors de Bamako pour pouvoir,
désengorger
le grand lycée, là. Voilà, c'est pour vous dire que actuellement le Mali est dans une situation où il y a une crise quelque part. Il y a des infiltrés entre nous, on est obligé d'être vigilant. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'ampleur est telle que, bandits de grand chemin terroristes, il y a les armes qui circulent aussi en fait.
Moi je pense que c'est une formation. Tout juste une seconde. Je voulais dire que quand il dit les pauvres populations, les dozos, moi j'ai vu certaines armes qui ont été saisies par les gendarmes qui ont été dépêchés sur les lieux. C'est des Baïkal, des fusils de chasse. Parmi ces armes, il y avait une Kalachnikov. Et on appelle ça arsenal de guerre.
Et cela venait d'où?
Les fusils de chasse. Mais ça, c'est pour les dozos.
Il oui, a mais quand vous parlez de Kalachnikov.
La Kalach, ça s'achète comme les petits beignets dans le septentrion actuellement. Ça, ce n'est pas. C'est quoi? C'est un secret de Polichinelle. Je disais donc.
Finissez pour le ben.
L'arsenal de guerre dont on parle, moi, l'arsenal de guerre, c'est pas 4 Baïkal et puis une calache. Il faut qu'on s'investisse pour que cela cesse.
Ami Baba Cissé.
Moi, je vais beaucoup appuyer ce que Touré a dit. Je pense que le constat, il est là et il est amer. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où le peuple se sent vraiment mal à l'aise. Et lorsque vous l'empêchez de s'exprimer, ça pose problème. On ne peut plus marcher aujourd'hui facilement au Mali, à Bamako. Les autorisations sont interdites, même si vous l'avez parfois, on l'annule à la dernière minute. Il a parlé de la presse. Tout le monde sait aujourd'hui, certaines radios radio sont brouillés, certains journalistes se sont menacés. Bien sûr.
On est toujours en état d'urgence là, parce que moi je.
Non,
je suis plus le.
De toutes les façons, c'est un constat qui est très grave.
On est toujours en état d'urgence.
On a vu pour la première fois de l'histoire de ce pays, on a même coupé les réseaux sociaux. Donc ça, c'est encore aller très loin dans un pays où l'histoire démocratique a servi de leçon sous d'autres cieux. Je pense que le rapport d'Amnesty International, moi je le partage entièrement, ça aurait peut-être été même pire. Il faut qu'on sorte de cette histoire et qu'on permette aux populations de donner leur point de vue, d'analyser et d'opiner, parce que c'est ce qui permet souvent à un peuple offensé et meurtri de se libérer de façon temporaire, parce que lorsque vous empêchez au peuple de s'exprimer, ça a des conséquences parfois très graves.
Je crois que nous allons finalement aborder un autre sujet.
Je voulais juste dire ou bien attirer l'attention de mon confrère Ben que Amnesty International est comparable au vérificateur. Il a les moyens de dénoncer, d'investiguer, de dénoncer, mais il n'a pas de moyens de
répression. Sa mission se limite à ça.
Moi, j'avais un dernier détail. Je pense que peut-être on a omis. C'est qu'on ne peut pas parler aussi des droits sans parler du système judiciaire. L'année passée, il y a eu une contradiction. Le président, le chef de l'État Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a dit qu'un certain nombre de dossiers a été remis à l'État.
À la justice.
Or, plus tard, il y aurait eu un démenti, un sous-entendu, comme quoi les dossiers n'y sont pas arrivés ou ce n'est pas vraiment ça. Sa vérité n'est pas leur vérité. Et il faut le reconnaître, le débat n'est pas fameux quand il y a l'espace d'interpellation démocratique et qu'on écoute les populations. Donc je pense que même la justice malienne aussi doit être revue.
Je pense que les juges ont tranché ça lors de leur récente grève. Ils ont dit clairement qu'ils n'ont reçu aucun dossier du président de la République et que tout ce qui s'est dit, c'est par devoir de réserve qu'ils n'ont jamais voulu dire. Donc, je ne sais pas qui croit, mais moi, je crois plus les magistrats que le président.
Changement de cap à présent. Deux présumés djihadistes sont maliens arrêtés au Sénégal. Ils ne sont pas forcément n'importe qui. Alors, la traque semble donc être en cours, même en dehors, quand même, des pays frappés par les terroristes. C'est un signal, non? On va commencer par vous, M. Touré.
Oui, c'est un signal fort et tout le monde s'attendait à ça, puisqu'après Ouagadougou, Abidjan, après le Radisson, Ouagadougou, Abidjan, et tout le monde avait les yeux quand même rivés sur le Sénégal. Et je pense que ce pays a quand même été alerté et ce pays s'est mis au travail. Et j'appelle nos autorités aussi à être très vigilants, comme le dit M. Ben. Et voilà. Voilà ce qui a permis aujourd'hui l'arrestation de ces présumés qui, disait-on, avaient des rapports avec la tête ou bien le cerveau de l'attaque de Grand Bassam de la Côte d'Ivoire. Je pense aujourd'hui quand même que la vigilance est de mise dans tous les pays du Sahel et dans tout le monde d'ailleurs, parce que nul peuple n'est à l'abri de ce terrorisme.
Oui, je crois que c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que quand les limiers, ça fait longtemps quand même qu'ils n'ont pas mis sous la dent des gros poissons comme ceux qu'on a arrêtés au Sénégal. Il faut vraiment.
Non, chez nous, on en arrête à longueur de journée.
Non, c'est des petits poissons. il faut rester vigilant. Parce que vous savez, quand cette nébuleuse a décidé de mener une guerre asymétrique, c'est-à-dire ils sont partout, n'importe où. C'est les forces invisibles.
C'est pas qu'ils sont.
Sont invisibles. Donc il faut être vigilant. Comme je l'ai toujours dit, tout bon Malien est un bon policier, est un bon agent de renseignement. Et il faut que l'administration le prouve aux Maliens que nous sommes et qu'il nous donne la latitude de les aider, qu'il nous aide à les aider.
Idrissa Keïta.
Moi, je suis content. Parce que vous savez, quand les attentats en leur temps se sont faits, il y a eu des tribunes, hein, de débats comme ça, entre confrères, sociétés civiles et autres. Et on a tous dit qu'il serait temps que les États entre eux collaborent. Une synergie d'efforts, d'actions. Et le ministre même concerné de la tutelle, la sécurité intérieure, a même eu à faire des voyages. Souvent, on l'a vu à travers certains confrères, où il y a eu des échanges. Mais vous savez, c'est la sécurité. Souvent, il y a des secrets défense, comme on dit. On n'ébruite pas. Mais on constate que, après les attentats, on met quand même la main on commence à déceler des réseaux. Et encore, Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, on met la main sur des bandits ici. Et ceux qu'on vient de prendre au Sénégal, eux, ils étaient à l'origine. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'ils font, ils se déplacent et dans leur mouvement, on arrive à les suivre, les localiser. Ça veut dire que la synergie est une réalité. Et ça veut dire qu'à la longue, on pourra espérer que, à part le fait que c'est à l'externe, à l'interne aussi, on puisse avoir des résultats de ce genre. Mais pour le faire, les populations, comme on l'a dit, doivent être très vigilantes.
Et se sentir concernées.
Et se sentir concernées et dénoncer toute action suspecte.
Ami Bessé.
Oui, comme l'a dit Paul, il faut de la vigilance. Nous avons vu que même ici au Mali, à un moment, les services de renseignement ont procédé à des arrestations, mais quelques jours plus tard, des catastrophes sont arrivées. C'est vrai, le Sénégal n'est pas trop habitué à ce fléau, mais de plus en plus, et ils vont commencer à converger là-bas. Je suis sûr et certain que ce n'est pas seulement ces deux personnes, il y a d'autres quand même unités éparpillées un peu partout dans la nature. Il ne faut pas trop crier victoire, mais je pense que ça rassure les populations lorsque ils savent que quelques dangers parfois sont déjoués par les services de renseignement. Au Mali aussi, c'est vrai, on est très exposé, mais de temps à autre, là, il y a des exploits qui sont faits. Je pense que de façon coalisée, les États peuvent faire beaucoup de choses si certains moyens leur sont octroyés.
En tout cas, il n'est pas question de baisser la garde, surtout avec les informations qu'on reçoit. Alors, la Fort Barkhane qui a été attaquée par des membres d'un groupe armé, c'est... Alors, les Français ont réagi, ils ont quand même tué 4 personnes et ont saisi du matériel. Il y a aussi cette nouvelle qui nous est parvenue du Niger. On parlait de 11 morts, à présent c'est 15 soldats nigériens qui sont morts et 19 autres qui ont été blessés dans une attaque contre leur patrouille. On dit que les assaillants ont pris la direction du Mali une fois
de
plus.
De l'Andréa des Iforas.
Les scénarios restent les mêmes, monsieur Touré.
Bon, le scénario reste le même. Je vous l'ai dit, nul peuple n'est à l'abri du terrorisme aujourd'hui. Et moi, ce que je refuse de croire, c'est que tout le monde essaye de figer le Mali, de penser que le Mali est la base arrière de tous ces malfrats, de tous ces terroristes. Moi, je pense que, comme Ami l'a dit, ils sont éparpillés dans la nature.
Mais lorsqu'on prend quand même le cas du Niger, chaque fois quand même qu'ils attaquent, alors on
s'est dit... C'est du côté, c'est vraiment du côté de la frontière malienne.
Ça ne va pas être fortuit.
Bon, je sais pas, peut-être c'est là-bas qu'ils ont plus d'espace de se mouvoir, c'est là-bas que les frontières sont poreuses, c'est là-bas qu'il manque vraiment une force d'interposition.
C'est là-bas qu'ils sont plus à l'aise, je ne sais pas.
Il ne faut pas se voiler la face. Dans cette partie du Mali qui fait frontière avec le Niger, franchement, on peut pas lutter contre ces gens, on peut pas les stopper. Parce que la région de Menaka, qui est frontalière à cette partie du Niger où il y a des incursions, imaginez-vous, on a quoi, 17. La région, en tout et pour tout, a 17 gardes. On a 4 gendarmes, on n'a pas de policiers.
Mais lorsqu'on
dit que Barkhane est à 300.
Barkhane n'est pas omnipotent. Barkhane a fait des incursions dans cette zone il n'y a pas plus de 2 mois où ils sont partis, ils ont arrêté des personnes, ils ont neutralisé. Mais Barkhane est à 300 km de Barkhane est à 360 km de la zone où se passent ces choses. Donc Barkhane ne peut pas à chaque fois se lever pour aller. C'est pas possible. Nous sommes dans un pays. Non, il faut non, que nous-mêmes. Nous sommes dans un territoire.
Ils sont là pour ça. Ils doivent avoir les moyens.
Nous devons compter sur nous. D'abord, avant de compter sur les.
J'aimerais laisser la parole au confrère parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Barkhane, mais lui qui est sur le terrain, il est quand même en train de situer par rapport aux actions de Barkhane. Parce que finalement Barkhane est là-bas, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Chaque fois qu'on a écho de Barkhane, c'est que ils ont eu à attraper des gens ou il y a eu un attentat contre eux. Donc,
non, Barkhane est là-bas, mais je vous dis, Barkhane est à plus de 360 km de la zone où se passent ces incursions-là. Mm-hmm. Et à plus de 360 km. Sinon, Barkhane fait de temps en temps, ils font des patrouilles, et ils font des arrestations, ils neutralisent des objectifs comme ils le disent. Mais je vous dis, moi je le dis, je le maintiens, il faut qu'on compte sur nos propres forces d'abord.
Ah, peut-être que la force sahélienne entre le Burkina, le Mali et le Niger, peut-être que cette force-là est un début de solution.
Alors, pour moi, c'est très simple. L'État n'est pas présent sur cette partie du territoire et c'est difficile que l'État puisse même assurer la sécurité. Sinon, même avec les autorités intermédiaires, si l'État était là, peut-être qu'il aurait pu maintenir un certain ordre. Donc, c'est difficile, comme l'a dit. C'est obligatoire qu'on considère le Mali comme étant la base arrière parce que là, c'est un refuge.
On est dans les zones de Andera Boukane, Inchinanan. Ça, c'est la frontière. Là-bas, il n'y a même pas de maire. Le préfet n'est même pas présent là-bas parce qu'il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de policier.
À vous tous, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu Paul Venn, journaliste indépendant, ami Baba Cissé, RFM, Journal Figaro, ami de Elage Touré qui est de malimedia.com et Idrissa Keïta de Raïda Info. À la mise en onde, il y avait Sedumbo, réalisation Ibrahim H. Diallo et à la régie vidéo Mamadou Ouattara, présentation, il y avait Seydou Fomba. On vous souhaite un excellent week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kanfoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Mambi.
Chenne Beri. Sigi Kanfoba.